Studio Tamani, voici les informations en français.
Vendredi 4 août 2023, il est 18h, mesdames et messieurs. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, l'entraîneur national des U16 de basketball vient d'être suspendu. Dans un communiqué, la Fédération malienne de basketball parle de soupçons de harcèlement sexuel sur ses joueuses. Les habitants de Mamadaga, dans la commune de Ténénkou, sont préoccupés de la recrudescence de l'insécurité dans leur zone. Ils demandent aux autorités plus de mesures. Des Maliens vivant à Niamey au Niger rassurent sur leurs conditions après le coup d'État. Cependant, ils se disent inquiets par rapport aux sanctions de la CEDEAO. Pour la présentation, vous avez Adama Amadou Haïdara, Salim Diouara est à la mise en onde. Nous ouvrons ce journal avec cette information. Le ministère de l'Éducation nationale vient de publier les résultats du baccalauréat malien session de juin 2023. Le taux de réussite est de 25,73% contre 20% l'année dernière. Sur 170 695 candidats réguliers, 40 027 sont admis. Ils ajoutent que ces résultats sont disponibles dans toutes les académies d'enseignement et les établissements secondaires. Notons que cette année, ils étaient plus de 212 000 candidats à faire le bac. La Fédération malienne de basketball a suspendu l'entraîneur national de l'équipe des filles de basketball de moins de 16 ans pour des soupçons de harcèlement sexuel. Dans un communiqué datant du 27 juillet dernier, il est dit que Moussa Sidibé aurait perpétré des actes de harcèlement sur Assitan Diarasouba, une de ses joueuses de l'équipe. Des enquêtes sont en cours selon la commission ADHOC. On en sait plus avec Mariam Koulibaly.
Les faits se seraient déroulés du 16 au 23 juillet dernier à Monastir en Tunisie. C'était lors du dernier afro-basket féminin des moins de 16 ans. Dans le document, la fédération suspend l'entraîneur Moussa Sidibé de toute activité liée au basketball. Et cela avec interdiction d'accès aux lieux de compétition de basketball. Dans un autre communiqué, l'association des basketteurs du Mali indique que des actions sont en cours pour faire la lumière sur cette affaire de harcèlement sexuel. Elle a tenu à rappeler son engagement en faveur de la protection des jeunes sportifs. Rappelez-vous, la Fédération internationale de basketball FIBA a pris en juin dernier des lourdes sanctions contre 5 officiels maliens. Dans le verdict, l'entraîneur Amadou Bamba a écopé d'une suspension à vie de toute activité liée à la FIBA. Les 4 autres ont été suspendus de toute activité liée à la FIBA, allant de 8 mois à 2 ans. Assorti d'une amende de 13 à 3 millions de francs CFA, tous sanctionnés dans le cadre de l'affaire dite d'abus sexuel sur des jeunes basketteuses maliennes qui remonte à 2021.
Les associations de défense des droits des sportives s'attendent à ce que la lumière soit faite sur cette affaire. Selon elles, ces cas de harcèlement ternissent l'image de la discipline. L'association Young Players Protection in Africa entend apporter son soutien à la présumée victime. Amar Abdullahi Meiga est le président de l'association. Il est joint au téléphone par Mariam Koulibaly.
De ce que j'ai appris hier, à 17h, l'interpellé a été entendu par la commission d'éthique et nous attendons le communiqué qui va confirmer ou infirmer la mise en cause. Déjà, nous sommes rentrés en contact avec la fille en question. Elle nous a orientés vers son grand-père. Nous avons essayé de comprendre ce qui se passait et nous les avons informés que nous sommes à leur disposition. Nous leur offrons un soutien psychologique et un soutien légal. J'ai vu en fait quelque chose qui ne m'a pas plu en fait, c'est la façon dont ils ont laissé circuler un peu le document. Il faut protéger en fait les victimes. Il n'est pas bon de mettre les noms des victimes dans des documents officiels et de les laisser circuler. Il y a une démarche qui doit être faite selon une méthodologie stricte pour les protéger face à la justice et face à ce que les gens vont passer vis-à-vis d'eux.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. L'insécurité persiste dans certaines localités du centre et du nord du pays. Cette semaine, au moins 4 personnes ont été tuées et 2 autres blessées dans des attaques perpétrées contre différentes localités. Ces attaques surviennent au moment où les populations de Mamadaga, dans la commune de Ténénkou, demandent aux autorités de renforcer la sécurité. Le point avec Sita Sidibé.
Dans le village de Mamadaga, des sources concordantes affirment qu'un affrontement a opposé le lundi 31 juillet dernier les Dozo et un groupe d'hommes armés. Le bilan fait état de 3 assaillants tués et 2 blessés civils. Selon des habitants, les forces armées maliennes ont mené hier jeudi une intervention dans le village de Mamadaga. Elles ont évacué les populations vers des localités plus sécurisées, ajoutent les sources locales. Toujours dans la même zone, des sources locales rapportent que des tirs ont été attendus tôt ce matin entre Massina et Monipi. Des habitants de ces localités se disent inquiets de la situation sécuritaire qui leur empêche de mener toute activité agricole. Au nord du pays, un accrochage aurait opposé hier un détachement de l'armée malienne à des éléments de l'IGS dans la zone de Menaka. Par ailleurs, la coordination des mouvements de l'Azawad a annoncé ce mardi dans un communiqué qu'un de leurs postes situés à la frontière entre le Mali et la Mauritanie a été la cible d'une attaque. 2 éléments de la CIMA sont morts dans cette attaque.
Toujours en région, des revendeurs de bois ont été attaqués hier à quelques kilomètres de la ville de Gao par des hommes armés à moto. 2 d'entre eux ont été enlevés par les assaillants. Les autres ont pu rejoindre la ville. Pour le moment, il n'y a aucune nouvelle des 2 personnes enlevées. Au Niger, où est intervenu un coup d'État il y a une semaine, vivent de nombreux Maliens. Dans la capitale Niamey, comme à l'intérieur du pays, c'est des Maliens évoluent dans plusieurs secteurs. Plus d'une semaine après le coup d'État, ceux-ci vaquent normalement à leurs affaires sans problème, même si certains parmi eux s'inquiètent des conséquences des sanctions de la CEDEAO. Les organisations de la diaspora du Mali, quant à elles, sensibilisent les ressortissants maliens au Niger sur la conduite à tenir. Le reportage de Mamadou Samassikou, notre envoyé spécial à Niamey.
De nombreux Maliens rencontrés à Niamey rassurent sur leur situation une semaine après le putsch du général Abdourahmane Tchani. En revanche, certains s'inquiètent des conséquences des sanctions de la CEDEAO.
Moi, je suis un commerçant. Vraiment, tout marche comme on veut. Il y a un couvre-feu à partir de 0h jusqu'à 5h du matin. Bon, ils ne sont pas en train de déranger les gens.
Nous qui sommes à Niamey, on n'a aucun problème. Nous remercions le bon Dieu.
Problème, il faut que chez nous.
Nous, on est comme chez nous. Ce qu'on déplore, les sanctions de la CEDEAO, ils sont au moment inopportun.
Le Conseil supérieur de la diaspora malienne assure que des dispositions sont prises pour sensibiliser et surtout rester en contact avec la communauté malienne au Niger. Cheikh Haïbala Kounta, secrétaire général du Conseil supérieur de la diaspora malienne au Niger.
Cette sensibilisation, déjà, ça fait écho, ce qui veut dire que la communication, elle passe bien. On continue toujours à les sensibiliser. Il faut beaucoup prier pour le pays et je demande à tous les Maliens vivant au Niger d'être dans les mêmes lancers d'ordre.
Signalons que la représentation du Mali au Niger n'a pas répondu à nos sollicitations. De Niamey, Mamadou Samassikou pour Studio Tamani.
Une quinzaine de journalistes et reporters, dont 8 femmes, renforcent leur capacité sur l'éthique et la déontologie, le journalisme et zones de conflit. La formation qui a démarré ce matin est initiée par l'Union des journalistes et reporters du Mali. Pour ses responsables, cette formation vise à améliorer les compétences de ces journalistes dans l'exercice de leur métier. Un reportage signé Halima Yattara.
Les responsables de la Haute Autorité de la Communication, HAC, affirment que les postures des journalistes, le journalisme en période de conflit, sont des thématiques importantes et collent avec la situation du pays. Gaoussou Koulibaly, président de la HAC.
Bon nombre de dérapages sont dus au fait que les acteurs ne sont pas suffisamment outillés. Quand on n'est pas suffisamment outillé, on commet des fautes de bonne foi. Pour les éviter, il faut qu'on soit suffisamment renforcé. La HAC ne peut réussir sa mission sans les hommes de médias que vous êtes.
Pour les participants, le métier de journalisme est un parcours de combattant. Ils soulignent que cette session va renforcer leur vigilance et leur maîtrise des règlements.
Actuellement, dans notre milieu, nous avons beaucoup de problèmes. Il y a des journalistes qui se permettent de s'immiscer dans la vie privée des gens, comme quoi on est journaliste.
Cette formation va nous permettre d'avoir une bonne pratique sur le terrain.
Ça va nous apporter beaucoup de choses dans notre métier, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes se disent journalistes alors qu'ils n'ont pas fait la formation.
Les organisateurs de la formation concluent qu'il est important d'élargir ce genre de sessions à l'intention d'autres journalistes à l'intérieur du pays.
La rubrique « On en parle » à cette période d'hivernage, de nombreux produits connaissent une augmentation de prix, comme nous expliquent les populations de Sikasso, Toumina, Koulikoro et Diré. Selon elles, certains produits, notamment le charbon, les légumes et le sable, ont connu une flambée. Ils réagissent dans la rubrique « On en parle » réalisée par Lale Tangara avec la contribution de nos correspondants.
Auparavant, Sikasso était une zone où les légumes frais étaient très abondants et coûtaient moins cher, mais ce n'est plus le cas de nos jours.
En période hivernale, je pense que c'est dont le prix grimpe actuellement.
Le sac de charbon était à 1000 francs à Tomigna, mais actuellement, c'est entre 2500 francs et 3000 francs. Le kilo de l'oignon varie entre 650 et 800 francs.
Puis ça va. Constater qu'au marché, il y a eu l'augmentation de certains de nos fruits, puis aussi nos légumes.
Aujourd'hui à Koulikoro, le prix du sable pour les bennes 12 et 14 roues est à 85 000 francs. Pour les 10 roues est à 60 000 francs. Les prix risquent d'augmenter encore car la pluie continue.
Et nous retrouvons à présent Mariam Koulibaly pour l'introduction du Grand Dialogue de ce soir. Bonsoir Mariam, c'est quoi le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui?
Comment réussir un cancer au Mali, c'est le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui. Nos invités sont Issiaka Badi Amkoulel L'Enfant Peul, il est auteur, compositeur et acteur culturel. Eladji Amadou Diop, animateur et producteur. Abba Bokoum, acteur culturel. Issouf Kone, journaliste culturel.
Merci Mariam, bon débat. Ainsi prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver ce journal ainsi que toutes les productions de Studio Tamani via l'application Studio Tamani disponible sur Play Store. Dans quelques instants, le magazine.
Chers parents, encouragez vos enfants à participer au jeu École à la radio sur Viamo.
Pour participer au jeu, c'est facile. Appelez gratuitement le 37 3 2 1. Passez le téléphone à votre enfant. Il va suivre les indications et réviser des leçons en calcul et en français.
Aidez vos enfants à réviser leurs leçons de calcul et de français. Je rappelle le numéro gratuit à composer. 37 3 2 1.
Le jeu École à la radio, c'est avec Studio Tamani,
le ministère de l'Éducation nationale, Viamo et l'UNICEF.
Le Mali ambitionne de produire 10 millions de tonnes de maïs pour la campagne agricole 2023-2024. L'objectif est de répondre à l'insuffisance de la farine de blé. Si les prévisions se confirment, le Mali pourrait assurer son autosuffisance alimentaire et disposer d'un surplus confortable à l'exportation, selon des économistes. L'apport du maïs à l'économie nationale, c'est le sujet du magazine Économie de ce vendredi, une réalisation de Ali Sissi.
Le Mali, troisième producteur du maïs en Afrique de l'Ouest, peut assurer les besoins alimentaires de sa population en substituant la culture de cette plante au blé. C'est l'avis de Moussa Traoré, président de l'Union des coopératives semencières du cercle de Koutchala. Pour ce membre de l'interprofession de la filière maïs au Mali, toutes les conditions sont réunies pour satisfaire la demande.
Tous les facteurs de production sont réunis. Non seulement nous avons la terre, nous avons les matériels de travail, il y a l'engagement des producteurs. Les unités sont là. Si le gouvernement parvient à remplir sa mission, il n'y a pas de doute. Les producteurs sont prêts à satisfaire ces besoins-là. Il n'y a aucun problème. Nous allons bien pousser pour avoir les 10 millions de tonnes.
Les localités des régions du sud du Mali sont des zones de culture par excellence du maïs. Les régions du centre et de l'ouest progressent également dans le domaine. À Sikasso et à Massina, les paysans saluent cette initiative des autorités. Pour l'atteinte de ces objectifs, ils demandent au gouvernement de mettre suffisamment d'engrais à la disposition des cultivateurs.
Cette initiative est vraiment à saluer. Maintenant, la culture du maïs a besoin de certaines choses. On a besoin d'engrais. Sinon, on a des bras valides ici.
Ce qui dérange un peu, c'est surtout le problème d'engrais. Parce que jusqu'à présent, l'approvisionnement n'est pas à 100%. Dans la région de Sikasso quand même, surtout le cercle de Kadjoulo où je suis, si les autres cercles ou régions répondaient de la même manière, je pense que c'est possible.
Si les attentes se concrétisent, le Mali assurera son autosuffisance alimentaire selon Dr Lamine Keïta. Pour cet économiste, la matérialisation de cette annonce boostera l'économie nationale.
Si les moyens sont mis en œuvre et que les prévisions également sont confirmées, c'est au moins l'économie n'attend plus une importation ou une aide extérieure pour faire face aux besoins alimentaires nationaux. Ça veut dire qu'on a tracé une voie pour l'autosuffisance alimentaire, une autre forme d'indépendance, sans laquelle il n'y a pas d'indépendance. C'est la première indépendance qu'il faut acquérir.
Des nutritionnistes préconisent également à la population de consommer la farine du maïs. Selon eux, il est sans effet négatif sur la santé. Cependant, ils mettent en avant la culture du maïs jaune pour couvrir les besoins nutritionnels de l'organisme. Rosine Ali Sylvie Ouattara, nutritionniste.
Le gouvernement peut faire cette
substitution à une seule condition. Et la condition sine qua non est le choix qui doit être porté sur la qualité du maïs qui sera utilisé. Parlant des valeurs nutritives du blé, c'est l'un des féculents qui regorge en lui-même du gluten, ce qu'on appelle les vitamines, l'amidon. Maintenant, pour remplacer le blé et couvrir aussi les besoins nutritionnels de l'organisme avec du maïs, il faudrait vraiment choisir le maïs jaune. Parce que le maïs jaune peut concurrencer le blé en termes de valeur nutritionnelle.
Le taux de rentabilité de la culture du maïs est de 42% en moyenne au Mali selon des experts. Cette donnée atteste de son importance dans la génération de revenus dans le monde rural, souligne-t-il.